Si tous les samedis de 1982 peuvent être considérés comme un jour unique, je rencontrais Tracy à 10h du matin ce samedi-là. Nous marchions sur le gravier d'un cimetière, chacune tenant la main de nos mères respectives. Beaucoup d'autres filles étaient présentes, mais pour des raisons évidentes, nous nous remarquâmes, relevant nos similitudes et nos différences comme les filles en ont l'habitude. Nous avions exactement la même couleur de peau. À croire que nous avions été fabriqués dans le même tissu marron clair. Nos taches de rousseur se concentraient aux mêmes endroits et nous avions la même taille. Mais mon visage affichait une expression réfléchie et mélancolique. Mon nez était long et sérieux et mes yeux tombants, tout comme ma bouche. Le visage de Tracy était guilleret et rond. Elle ressemblait à une Shirley Temple basanée, sauf que son nez était aussi problématique que le mien. Je m'en rendis compte aussitôt, un nez ridicule qui se dressait en trompette tel celui d'un porcelet. Mignon, mais obscène aussi, ses narines s'offraient constamment au regard. Question nez, on pouvait dire qu'on était ex aequo. Quant aux cheveux, elle gagnait haut la main. Bouclés, ils lui tombaient jusqu'aux fesses en deux longues nattes brillantes, enduites d'une espèce d'huile au bout desquelles étaient fixés deux nœuds en satin jaune. Les nœuds en satin jaune étaient un phénomène inconnu de ma mère. Avec un élastique noir, elle attachait mes cheveux frisés en une masse unique à l'arrière de mon crâne. Ma mère était féministe. Elle portait une coupe afro de 2 cm, son crâne était parfaitement arrondi, elle ne se maquillait jamais et nous habillait toutes les deux de façon aussi sobre que possible. Peu importe la coiffure lorsqu'on ressemble à Nefertiti. Elle n'avait nul besoin de maquillage, de produits, de bijoux ou de vêtements coûteux, et en ce sens, ses moyens financiers, ses opinions politiques et ses goûts s'accordaient parfaitement, ce qui était commode. Les accessoires l'empêchaient de respirer, y compris la gamine de 7 ans au visage chevalin qui se tenait à ses côtés. C'est du moins ce que je ressentais à l'époque. En regardant Tracy, je diagnostiquais le problème opposé. Sa mère était blanche, obèse et atteinte d'acné. Ses fins cheveux blonds étaient tirés en arrière, très serrés, façon, aurait dit ma mère, « lifting Kilburn ». Mais le glamour de Tracy apportait la solution. Elle était l'accessoire le plus frappant de sa mère. Contrairement à ma mère, je trouvais le style familial captivant. Logo, bracelet de pacotille et créole, strass et paillettes à tout va, baskets hors de prix, de celles dont ma mère refusait d'admettre l'existence. C'est pas des chaussures, ça. Toutefois, malgré les apparences, nos situations se valaient. Nous habitions toutes deux dans une cité et aucune de nos familles ne percevait d'aide sociale. Une fierté pour ma mère, un scandale pour celle de Tracy. Elle avait tenté et échoué plusieurs fois de toucher des allocs pour invalidité. Du point de vue de ma mère, c'était précisément ces similitudes superficielles qui donnaient tant d'importance à la question du goût. Elle s'habillait pour un futur non encore advenu, mais dont elle attendait l'arrivée. Telle était la raison d'être de son pantalon en lin blanc, de sa marinière à rayures bleues, de ses espadrilles élimées, de sa tête d'africaine, belle et sévère, le tout si sobre, si discret, complètement à l'encontre de l'air du temps et de l'endroit où nous vivions. Un jour, nous réussirions à nous tirer d'ici. Elle achèverait ses études, deviendrait une vraie militante dans le vent, peut-être même comparable à Angela Davis et Gloria Steinem. Les chaussures à semelles en cordes tressées faisaient partie intégrante de cette vision radicale. Elles soulignaient de façon subtile les concepts supérieurs. J'étais un accessoire dans le sens où mon physique quelconque incarnait l'admirable retenue maternelle, dans la mesure où il était considéré de mauvais goût, dans les cercles auxquels ma mère aspirait, d'habiller sa fille comme une petite pute. Mais Tracy incarnait sans vergogne l'ambition de sa mère. Elle était son avatar, sa seule joie, avec ses nœuds jaunes sensationnels, sa jupe à innombrables volants, son petit haut révélant quelques centimètres de ventre brun, et tandis que nous nous pressions contre elle dans l'embouteillage de mères et de filles pénétrant dans l'église, j'observais avec attention la manière dont la mère de Tracy poussait sa fille devant elle et devant nous, faisant obstruction avec son propre corps, la chair de ses bras ballottant alors qu'elle nous repoussait jusqu'à ce qu'elle parvienne à entrer dans la salle de danse de Mademoiselle Isabelle, l'air fier et anxieux, prête à confier sa précieuse marchandise à quelqu'un d'autre. L'attitude de ma mère, au contraire, était empreinte d'une soumission prudente et quasi ironique. Le cours de danse lui paraissait ridicule. Elle avait mieux à faire. Et après quelques samedis, durant lesquels elle restait avachie sur une des chaises en plastique alignée contre le mur de gauche, à peine capable de dissimuler le mépris qu'elle éprouvait pour ce qui se déroulait sous ses yeux, il y eut changement de programme et mon père prit la relève. J'attendis que le père de Tracy fasse de même, mais il n'en fut rien. Il s'avéra, comme ma mère l'avait deviné d'emblée, qu'il n'y avait pas de père. Du moins pas au sens conventionnel du terme, d'un point de vue marital. Ce qui, d'ailleurs, était encore un exemple de mauvais goût.